Vous écoutez, on lit pour vous.
Mettre en lumière les femmes en affaires du village. Une chronique d'André-Constantin Pachour, parue le 10 mars 2025 dans le magazine Fugue. Dans un quartier dynamique et en constante évolution comme le village, la Société de développement commercial, SDC, du village, représentant quelque 255 membres, se distingue par sa diversité. Composée d'hommes, de femmes, de personnes non-binaires, ainsi que de membres des communautés 2SLGBTQIA+, et leurs alliés, la SDC met un point d'honneur à valoriser tous ses membres, et notamment les femmes entrepreneurs, qui, jour après jour, insufflent une énergie nouvelle et contribuent à la vitalité du village. À l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, la SDC du village a voulu mettre en lumière ces femmes qui transforment le paysage du village et qui veillent à offrir un accueil chaleureux et inclusif à toutes les clientèles dans leurs établissements. Parmi ces femmes entrepreneurs, on pense à la boutique Osée et à plusieurs restaurants emblématiques du secteur où l'énergie et la passion sont palpables. Ces femmes audacieuses, visionnaires et solidaires rêvent d'un village encore plus fier, animé par un esprit communautaire fort, où les commerçants, commerçantes s'entraident et collaborent pour faire rayonner le quartier. Le vendredi 7 février, lors d'une table ronde, nous avons échangé avec Léane Miller-Lafleur, copropriétaire du restaurant Palme, avec le chef Ralph Alert. Ouvert en 2017, le Palme propose une cuisine caribéenne revisitée qui fait honneur à la diversité des saveurs. Nous avons aussi eu le plaisir de discuter avec Catherine Saint-Cyr, copropriétaire du bistrot vegan Tendresse, et Sylvie Fontaine, propriétaire de la Piazzetta du village, un lieu symbolique qui fait partie du quartier depuis 1996. Bien entendu, Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC, était présente, rayonnante de vitalité. Un village en effervescence et en constante évolution. Le village a toujours été un lieu d'effervescence et de rencontres, et aujourd'hui encore, de nombreuses femmes fréquentent ce quartier, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou cliente. Sylvie Fontaine, par exemple, souligne que les femmes les plus discrètes, comme les lesbiennes, ne sont pas toujours visibles, mais leur présence est forte. « C'est une belle initiative de parler des femmes du village », déclare-t-elle. Liane Miller-Lafleur, elle, témoigne de l'accueil chaleureux et de l'atmosphère sécuritaire qu'elle ressent dans ses établissements, un aspect que les femmes apprécient particulièrement. Le village a connu des transformations, et même si la fréquentation des femmes était autrefois plus visible, des initiatives récentes montrent qu'il est possible de raviver cet esprit festif et convivial. Catherine Saint-Cyr, quant à elle, note que bien que les événements pour les femmes soient nombreux, il manque parfois un lieu où elles se sentent pleinement à l'aise. Elle propose même de nouvelles idées, comme des soirées spéciales pour femmes dans certains bars, afin de renforcer l'esprit communautaire et festif du village. L'engagement des femmes dans l'essor du village. Pourquoi investir dans le village? Pour ces entrepreneurs, l'opportunité d'affaires est indéniable. Sylvie Fontaine évoque l'attrait du quartier, particulièrement l'été avec la piétonnisation et l'animation de rue. Catherine Saint-Cyr et Liane Miller-Lafleur partagent un engagement fort pour la transformation du quartier, qu'il s'agisse de promouvoir des valeurs comme le véganisme ou d'offrir un lieu de rencontre multiculturel et inclusif. Leurs commerces sont des lieux de partage où toutes les communautés, y compris les communautés BIPOC, queer, se sentent à la fois valorisées et accueillies. Le village, un lieu de possibilités infinies. Si le village a perdu une partie de sa diversité commerciale, il est en pleine transformation. Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du village, le souligne. Nous travaillons activement à diversifier l'offre commerciale pour attirer de nouvelles clientèles et nous veillons à offrir des commerces de proximité afin de répondre aux besoins des résidents, résidentes et des visiteurs, visiteuses. Elle ajoute qu'avec le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine qui va commencer cet été, le quartier pourrait bien vivre une seconde jeunesse, portée par de nouveaux résidents qui redynamiseront l'offre commerciale locale. L'exemple du Tendresse, bistrot vegan, qui accueille beaucoup de femmes, montre que le village est un lieu où la sécurité et l'accueil sont au cœur des préoccupations. Cependant, il reste des défis à relever, comme celui de renforcer encore la sécurité dans les espaces publics pour encourager davantage de femmes à s'y sentir à l'aise, de jour comme de nuit. Liane Miller-Lafleur propose de nouveaux événements communautaires, comme une épluchette de blé d'Inde en fin de saison pour créer davantage de moments de partage et raviver l'esprit de fête du village. Vers un village plus inclusif et solidaire. Les commerçants-commerçantes du village, en particulier les femmes entrepreneurs, jouent un rôle clé dans la création d'un environnement plus inclusif et solidaire. Grâce à des projets comme le Fonds d'initiative locale de l'arrondissement de Ville-Marie, la SDC travaille d'arrache-pied pour revitaliser le village et en faire un lieu plus diversifié, plus dynamique et encore plus accueillant pour toutes les communautés de SLGBTQIA+. Le travail collaboratif et la solidarité entre commerçants, commerçantes et résidents, résidentes sont essentiels pour favoriser cette relance. Gabrielle Rondy conclut « Nous croyons fermement qu'un village plus inclusif et solidaire est la clé pour attirer une clientèle variée et assurer le dynamisme du quartier. C'est ainsi que nous construirons ensemble un village fort, fier et résilient. » C'était « Mettre en lumière les femmes en affaires du village », une chronique d'André Constantin Passiour, parue le 10 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Vendre sa police d'assurance vie pour se renflouer, un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 2 mars 2024 dans la presse. Beaucoup d'aînés détiennent une police d'assurance vie dont ils n'ont plus besoin ou qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer. La plupart ignorent qu'une police d'assurance vie, ce n'est pas qu'un contrat. C'est vraiment un actif financier, affirme Théodore Tomescu, directeur du développement des affaires chez Canadian Life Settlements, CLS. Cette entreprise montréalaise fondée en 2015 se spécialise justement en rachat de polices chez les personnes âgées de 70 ans et plus ou qui sont plus jeunes mais qui ont un problème de santé grave. En gros, CLS rachète la police d'assurance vie à l'assuré et s'occupe du paiement des primes. Elle en devient à la fois titulaire et bénéficiaire dans le but de toucher à la somme versée à la mort de l'assuré. Logiquement, pour que l'assuré soit gagnant, elle doit lui offrir plus que la valeur de rachat de la police lorsqu'il y en a une. M. Théodore Tomescu rappelle que, plutôt que de laisser leur police expirer ou de l'abandonner en échange d'un rachat minimal offert par la compagnie d'assurance, les titulaires ont des options comme obtenir un capital immédiat ou un revenu à vie basé sur la véritable valeur de leur police. C'est une pratique bien établie aux États-Unis et en Europe qui permet aux titulaires de transformer un actif dormant en argent disponible, résume-t-il. Les exemples de Pierre et de Maurice. Pour illustrer la mécanique, voici deux exemples de clients qui ont fait affaire avec Canadian Life Settlements. Maurice, 91 ans, agissait comme aidant naturel pour sa femme depuis 10 ans. Au fil des ans, ses économies se sont amoindries et il avait de la difficulté à continuer de payer ses primes de 5 800 $ par année, nécessaires pour le maintien de son assurance vie d'une valeur de 300 000 $. Son assureur ne lui offrait pas de valeur de rachat, Sa seule option était donc de cesser de payer ses primes. CLS lui a offert de racheter sa police pour une somme forfaitaire de 116 000 $. Elle continue de payer les primes jusqu'à la mort de Maurice et, à ce moment, recevra la somme convenue qui, une fois nette de frais, représentera un profit pour elle. Selon l'entente prise avec Maurice, CLS laissera aussi 79 000 $ à ses héritiers à sa mort. Un autre exemple, légèrement plus compliqué. Il s'agit de Pierre, 79 ans, qui payait 17 300 $ par année en prime pour sa police d'assurance de 1 million. Il souhaitait aller vivre en résidence pour aînés, ce qui l'a poussé à revoir son budget. Et c'est à ce moment qu'il a commencé à trouver que le paiement des primes de son assurance vie commençait à peser lourd. Pour lui, ce n'était pas une option de la garder. La prime était trop élevée, explique Théodore Tomescu. Il aurait pu annuler sa police et cesser de payer ses primes, ce qui lui aurait aussi donné une somme forfaitaire de 12 000 $, soit la valeur de rachat proposée par son assureur. CLS lui a plutôt offert de lui verser d'abord une somme de 55 000 $, puis 35 000 $ par année jusqu'à sa mort. C'est un revenu pour lui, qu'il peut utiliser pour faire sa transition dans une résidence, indique Théodore Tomescu. Une somme de 50 000 $ a aussi été conservée pour ses bénéficiaires comme héritage. À la mort de Pierre, CLS touchera 1 million de $ qui, en soustrayant les frais, représenteront le rendement de son investissement. Les exemples de Maurice et de Pierre sont liés à l'utilisation de fonds pour des frais de santé ou de résidence, mais ces sommes pourraient aussi être utilisées à d'autres fins. Ça pourrait être pour se libérer de dettes importantes, pour faire des dons philanthropiques de son vivant, ou encore réaliser des rêves comme un voyage, donne en exemple Théodore Tomescu. Pas pour tout le monde. La vente de sa police d'assurance vie implique que l'assuré cède au racheteur une bonne partie de l'argent qui serait allé à ses bénéficiaires à sa mort et pour laquelle il a payé des primes pendant des années. Il faut donc peser le pour et le contre avant d'entreprendre une telle démarche. Pour ce faire, il faut bien se renseigner sur le produit que l'on possède avant de vendre sa police. Quelle est la valeur de rachat prévue par notre assureur? Devrait-on plutôt choisir une option d'avance sur police? Est-il possible de récupérer nos cotisations? Cette assurance est-elle utile pour nos proches et devrait-on la garder? Les gens qui envisagent de vendre leur police d'assurance vie aurait avantage à consulter un professionnel reconnu par l'Autorité des marchés financiers, AMF, par exemple, un planificateur financier ou un représentant en assurance, pour s'assurer de bien comprendre le produit qu'ils détiennent avant de décider de le vendre ou non. Il serait aussi pertinent de s'assurer d'obtenir la meilleure offre possible pour sa police en comparant diverses propositions d'acheteurs. Comme indiqué plus haut, Canadian Life Settlements s'intéresse aux cas où les assurés ont plus de 70 ans ou ont des problèmes de santé graves. Il faut aussi que la police ait une valeur de 100 000 $ ou plus et qu'elle soit permanente ou temporaire convertible. D'autres racheteurs pourraient avoir d'autres critères. Il est à noter que le rachat de police d'assurance vie est légal au Québec et encadré par le Code civil. Il n'est pas permis dans les autres provinces canadiennes. Aux États-Unis, il s'agit d'une pratique plus fréquente, popularisée durant les années 1980, pendant la crise du sida. C'était « Vendre sa police d'assurance vie pour se renflouer », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 2 mars 2024 dans la presse.
La Plaza Saint-Hubert ne sera pas piétonne cet été. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. La piétonnisation estivale de la Plaza Saint-Hubert ne sera finalement pas de retour en 2025, l'expérience de l'été 2024 n'ayant pas connu le succès escompté auprès des commerçants. On a écouté la volonté des commerçants de ne pas reconduire la piétonnisation de la Plaza à l'été 2025. Cette volonté-là sera pleinement respectée, a annoncé le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Limoges, lors du dernier conseil d'arrondissement. Pour la première fois, à l'été 2024, l'artère commerciale avait été complètement fermée à la circulation automobile du 4 juillet au 25 août, entre les rues de Bellechasse et Jean Talon. Le projet pilote avait été qualifié de franc succès par la Ville de Montréal, qui avait annoncé à l'automne 2024 sa reconduction pour 3 autres étés. Le maire Limoges avait soutenu que le projet faisait le bonheur de milliers de visiteurs et résidents du quartier, soulignant que l'artère avait attiré 1,7 million de visiteurs supplémentaires durant l'été. Mais, de l'avis des commerçants de la Plaza Saint-Hubert, le projet de piétonnisation n'a pas été aussi concluant, plusieurs ayant constaté la perte d'une part de leur clientèle. À leur demande, la Société de développement commercial SDC de la Plaza Saint-Hubert avait organisé un vote fin octobre 2024, supervisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Environ 44% des quelque 400 membres ont exprimé leur opinion. Parmi eux, 61% ont voté contre la fermeture de la circulation sur l'artère à l'été 2025. Après beaucoup d'échanges passionnés, respectueux et intéressants avec les commerçants, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie a finalement choisi de les écouter. Bien que nous ayons vivement souhaité poursuivre la piétonnisation, ce projet ne peut pas exister sans l'adhésion des commerçants et commerçantes, a indiqué M. Limoges. L'argent qui devait être investi dans la reconduction du projet sera plutôt utilisé pour embellir l'ensemble des artères commerciales de Rosemont-la-Petite-Patrie, dont la Plaza, évidemment, mais aussi le marché Jean Talon ou encore la rue Saint-Zotique. On est content de voir que la volonté des membres a été écoutée et respectée, a réagi Mike Parente, directeur général de la SDC de la Plaza Saint-Hubert. C'était un beau projet. On l'a essayé, mais il ne convenait pas à nos membres, a-t-il poursuivi. À noter que la circulation automobile sera tout de même interdite sur l'artère lors de 2 fins de semaine cet été. La première, lors du Festival de musique et d'animation de rue Plaza Palooza, du 10 au 13 juillet 2025, et la seconde fin août, pour un événement de la rentrée. Favoriser l'achat local. La fin de la piétonnisation tombe à pic pour les commerçants inquiets pour leur avenir à cause de la menace des tarifs douaniers du président américain Donald Trump, note M. Parente. Lors du conseil d'arrondissement, le maire, François Limoges, a justement encouragé les citoyens à favoriser plus que jamais l'achat local. Devant une mondialisation qui est parfois effrayante, c'est essentiel de se rappeler qu'on a des rues locales commerciales fortes, belles, intéressantes et vivantes. Nos entrepreneurs d'ici ont besoin d'être encouragés. En achetant local, on fait un investissement dans notre économie locale, notre économie nationale et plus largement dans notre société, renchérit Mike Parente. C'était « La Plaza Saint-Hubert ne sera pas piétonne cet été », un texte d'Annabelle Caillou, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.
À 67 ans, Joe Bocan vieillit comme ça lui chante. Un texte de Michel Lemieux, paru le 1er mars 2025 dans Virage. Bien dans sa tête, son cœur et son corps, Jobokan exprime une jeunesse et une vitalité enviables. À 67 ans, la chanteuse repousse avec une belle insolence les frontières de l'âge, sans trafiquer ni nier le passage des années. Plus sexy que jamais, elle nous inspire à redéfinir notre regard sur le vieillissement. C'est dans le décor feutré et baroque du salon de thé Cardinal, dans un quartier tendance de Montréal, que nous rencontrons Jobokan, vêtue d'une somptueuse robe rose parfaitement excentrique. Elle y est pour lancer, Insoumise, son plus récent album. Citation. Actuellement, dans notre société, on redéfinit plein de choses, entre autres l'âge, soutient la chanteuse. Il y a quelque chose de beau dans le fait de pouvoir être une petite vieille et chanter. Physiquement, je ne suis pas jeune, mais dans mon âme, je le suis. Fin de citation. Redéfinir le vieillissement. La pochette de son opus lancé en novembre dernier présente d'ailleurs une joue renversante qui assume entièrement son sex appeal. Citation. Jules Bédard, le photographe qui a réalisé ces photos, a environ 21 ans, dit-elle. Son mandat était de prendre en photo une femme de 67 ans. Au début, j'ai senti une inquiétude. Je voulais juste qu'on s'amuse, qu'on ait du plaisir, et c'est ce qui s'est produit. Ça a été spontané, et je n'ai pas voulu qu'on retouche mes photos. Fin de citation. Jo ose ainsi dévoiler le passage du temps sur son corps. Citation. Au début, je ne voulais pas montrer mes bras, parce que c'est une partie du corps qui se ride rapidement. Le cou aussi. C'est ma fille qui m'a dit « Mais maman, si tu ne les montres pas, comment on va faire pour aimer nos bras quand on aura ton âge ?» Ils ne sont pas parfaits, mais je les montre. Plus jeune, même si je ne m'entraînais pas, j'avais des bras musclés. J'ai beau faire des poids et haltères, je ne retrouverai jamais ces bras-là. C'est la vie. Fin de citation. Bien malgré elle, par son exemple, Jo dédouane les femmes qui se trouvent trop vieilles ou qui craignent d'assumer leurs envies ou leur excentricité. Citation. Parfois, je me pose des questions. Je me demande si je suis trop vieille pour porter une petite robe courte, mais je me sens bien là-dedans. C'est assez rare qu'on éprouve du dédain à la vue d'une femme de 70 ans ou 90 ans qui est sexy. On trouve ça beau parce que c'est audacieux. Fin de citation. Au-delà des préjugés. Cette décision de se montrer telle qu'elle, comme elle l'a fait généreusement pendant notre séance photo, correspond parfaitement à l'idée du vieillissement que se fait la chanteuse. Citation. J'ai aussi des enfants qui me gardent jeune. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Ma fille me propose des livres à lire. Mon fils me fait découvrir des artistes en musique. Mon autre fils est dans l'agriculture et m'informe sur toutes sortes de sujets. Tous trois me gardent vivante. Fin de citation. D'ailleurs, son plus récent album a été produit en collaboration avec son fils, Samuel Bocan-Bédol, Yuki Dreams Again, qui a veillé aux arrangements et à la réalisation. Toujours engagé, l'artiste propose des pièces telles que « Pour faire lever les fleurs »,« Bête sauvage » et « Orage d'amour ». Jobokan veut déboulonner les préjugés comme celui qui veut que la soixantaine sonne le glas de la sexualité. Détrompez-vous. Citation. Comme si on n'avait plus droit à cet aspect de la vie. Fin de citation. Cette envie de s'attaquer aux idées reçues ne date pas d'hier. Rappelons-nous qu'elle avait posé en allaitant pour la couverture du 7 jours. Dans les années 90, ça choquait. Citation. Je ne recevais pas toujours de bons commentaires, mais chaque fois, je répondais que c'était la chose la plus naturelle qui soit. Fin de citation. Jo n'a jamais cherché à imposer son point de vue. Elle a vécu comme elle l'a souhaité, en marge de ce qu'on pouvait en penser. Citation. Je ne disais pas aux gens quoi faire, nuance-t-elle. C'est mon bonheur que je montrais. Je ne faisais pas les choses pour convaincre qui que ce soit, mais dans un esprit de partage. C'est comme si j'avais affirmé « Moi, c'est comme ça que je vois la vie et que j'ai envie de la vivre. » Lorsque j'ai laissé le métier pour aller vivre à la campagne avec mes enfants, il y avait plein de préjugés. Les gens me disaient qu'ils ne comprenaient pas ma démarche parce que j'étais censée être féministe, ce à quoi je répondais qu'une féministe choisit sa vie. Je faisais le choix de m'occuper de mes enfants. Je les aimais, j'avais envie d'être avec eux. Je ne voulais pas travailler pendant qu'ils étaient à la maison à se faire garder. Fin de citation. L'amour n'a pas d'âge. Puisque chaque période de la vie recèle sa part de cadeaux, Jo évoque ceux que la soixantaine lui offre. Citation. Je pense un petit peu plus à moi qu'avant. Lorsque mes enfants étaient plus jeunes, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Aujourd'hui, j'aime m'arrêter, prendre du temps pour moi. Quand j'ai eu 60 ans, j'ai commencé à déjeuner en lisant mon journal, à prendre mon temps. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est ce que j'aime dans le fait de vieillir. Pouvoir flâner, procrastiner, profiter de la vie. Je m'accorde du temps. C'est un cadeau que je me fais. C'est peut-être pour cette raison que je ne me vois pas vieillir. Fin de citation. Impossible de laisser filer Jo sans toucher un mot sur son bonheur amoureux auprès de celui qu'elle a rencontré à l'âge de 63 ans. Citation. L'amour, c'était comme une porte presque fermée, confie-t-elle. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. À ceux qui cherchent l'amour, je dis, n'ayez pas peur de l'ouvrir. De toute façon, vous pouvez la refermer. Il ne faut pas s'empêcher d'aimer. Vivre, c'est aimer. J'ai l'amour de mes enfants, mais je trouve que vieillir seul, ça peut être difficile, même quand on a beaucoup d'amis. Et l'amour a l'avantage d'offrir une complicité différente. Fin de citation. Un nouveau souffle. Depuis quelques semaines, la chanteuse remonte sur scène en solo dans le cadre de la tournée Insoumise. Après 40 ans de carrière, plus populaire que jamais, elle s'enthousiasme de ce nouveau souffle. « Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille, » confie-t-elle. « C'est extraordinaire. » Ce grand retour s'est amorcé en 2020 avec sa participation au spectacle « Pour une histoire d'un soir » avec Marie-Carmen et Marie-Denise Pelletier. La tournée s'est achevée le mois dernier à la Maison symphonique de la Place des Arts, non sans avoir vendu des dizaines de milliers de billets et raflé le Félix du spectacle de l'année. Citation. Avant ça, j'estimais que ma carrière était pas mal finie. Je croyais qu'on allait m'appeler de temps en temps, mais je ne m'attendais pas à connaître ce retour. J'ai toujours travaillé, mais jamais aussi intensément que maintenant. Fin de citation. Les prochaines semaines seront encore intenses et Jo ne boudera pas son plaisir. Mais elle avoue qu'un bon repos fera le plus grand bien. Citation. Ces 4 dernières années, j'ai été constamment sur la route. J'adore la tournée, mais j'ai aussi un côté très maison. J'ai beaucoup de demandes pour des projets, mais je songe à prendre des vacances durant l'été. J'ai envie d'écrire et j'ai surtout envie d'être chez moi. Fin de citation. C'était, à 67 ans, Jo Beaucamp vieillit comme ça lui chante. Un texte de Michel Lemieux, paru le 1er mars 2025 dans Virage.